Europe 1.
Europe 1. 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, l'heure est grave, le jour est à marquer d'une croix blanche et cette musique guillerette n'est pas de mise aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la dère des dères de l'équipée sauvage. La grande compétition qui aura opposé tout au long de la saison les meilleurs journalistes d'Europe 1, compétition qui pourrait connaître un sursaut inattendu cet après-midi. Si par exemple, le présentateur fou de cette émission décidait de faire voler en éclats le classement général et que donc, le titre de chroniqueur de l'année, qui devrait logiquement se jouer entre Anne Le Gall, leader du classement, Ève Roger et Alain Siroux, et si ce titre donc était soudainement totalement remis en jeu, que le taré aux commandes de cette émission décide de remettre les compteurs à zéro et de donner à tout le monde la chance de triompher sur le fil. Oui, mes fidèles agneaux, c'est ce qui va se passer. Oubliez votre classement, oubliez vos échecs, vos humiliations, même Emmanuel Dutheil.
J'en ai marre de perdre.
Mais non, mais
franchement, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner? Là, j'ai fait le cul au travail, j'y arrive jamais.
Il faut pas se traverser sa nature.
Oui, même Dutheil. Vraiment n'importe qui peut gagner aujourd'hui. Oh, bienvenue dans l'équipe sauvage, l'ultime affrontement. Deux heures d'un dernier combat forcément épique opposant vos journalistes préférés. J'accueille donc ainsi la première fournée, Emmanuel Dutheil, Nicolas Caro, Anne Le Gall et Fred Goetti. Bravo à tous déjà, on peut déjà s'applaudir. Alors les règles sont d'une simplicité confondante, vous me sortez chacun votre meilleur sujet et si les dieux du journalisme sont avec vous, vous serez peut-être à 18h le chroniqueur de l'année. L'enjeu forcément est énorme et j'espère que vous saurez gérer la pression, surtout vous Nicolas Caro.
Tu veux me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur.
Pour chapeauter cet ultime affrontement, plus musclé qu'Olivier Mine, plus cruel que Denis Brognard, ma muse, m'a fait mon bras droit, mon bras gauche. Toi, mon tout, mon toi, mon roi, ma reine, ma princesse, le sel de ma soca, la cerise sur ma pisse saladière. Eva Rock, soyez la bienvenue.
Alors attendez, je réfléchis, est-ce que je préfère la soca ou la pisse saladière?
Je
prends les deux.
Mais vous prenez les deux,
évidemment. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Qu'est-ce que ça vous fait, Eva, de savoir que dans deux heures, vous serez en vacances et que surtout, vous n'aurez plus à me supporter?
Oui, je serai débarrassée de vous, mais définitivement, oui. Mais c'est un truc incroyable. Je ne pensais pas vivre ça une fois dans ma vie.
Vous êtes la plus heureuse aujourd'hui.
Bah, le pire, c'est que je crois qu'on va partir un petit bout en vacances ensemble. Mais bon,
vous débarrassez moi professionnellement. Mais en vacances,
voilà,
on se retrouve.
Exactement.
Tout à l'heure, vous nous donnerez ou pas vos conseils télé. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir plein de surprises dans cette émission.
Ah bon, vous attendez des surprises?
Ah oui, j'attends des surprises.
Ah,
oui.
Dommage. Bah, écoutez,
vous allez juste nous donner les programmes télé du
ouais,
soir.
Ouais, je pense. Ouais,
en
ouais.
Toute simplicité.
En toute simplicité. Mais,
très bien.
Mais non, s'il y a quand même un truc. Ah. Il faut que je vous dise. Je le dis maintenant ou je le dis pas?
Ah si, oui, sortez.
Je le dis maintenant.
Sortez
bon,
de sous la
parce
table.
Parce que Anne Le Gall a déjà gagné en fait le championnat.
Normalement.
Donc elle a déjà un lot, mais qu'elle va pouvoir remettre en jeu aujourd'hui.
Je le remets en jeu.
Si elle est fair play. Et il y a un deuxième lot. Je vous montre.
Montrez-nous.
Des petits paniers garnis comme au loto, mais avec d'un côté des produits bio, bon, steak de soja, quoi.
Ah, voilà. Ouais, c'est bon, regardez-le. Pas,
voilà. Mais en revanche,
c'est bien ça.
Autre panier garni avec foie gras, bon bec.
Donc, si Anne Le Gall gagne, elle gagne les steaks
gagne
de soja.
Voilà.
Et si
et
le vrai gagnant,
ce truc de 10 kilos.
Les 10 kilos de Barbac des Baroques. Merci beaucoup. Nicolas Caro, est-ce que vous êtes fier de votre ultime sujet du jour?
Oui, c'est mon livre préféré au monde. J'en ai même 11.
11 livres en 3 minutes, c'est votre chronique. Fred Goetti, vous nous parlez de quoi, vous, aujourd'hui?
Oui. Ah. Je me réjouis de faire passer quelques minutes avec le plus beau son du monde. Il provenait d'un instrument inventé à la fin du 19e siècle par un certain Adolf Sax. Et celui qui en jouait s'appelait... Chut, patience. Ah, au fait, la musique qu'on entend là, c'est celle de L'équipée sauvage,
le film
de 1953 avec Marlon Brando, grand fan de jazz et forcément grand admirateur du poète du saxophone que je vais vous faire écouter. Et là, normalement, la moto revient.
On peut partir en vacances,
une
c'est bon.
Grosse cylindrée comme ouais. On les aime. Anne Le Gall, votre dernier sujet. Vous qui normalement auriez dû être sacrée championne aujourd'hui.
Oui, mais ouais. Voilà, on remet tout en jeu. Allez, je vais vous parler du cerveau parce que 80% des Français savent. On en a un déjà, même 100% je crois. Donc 80% des Français savent qu'il y a un problème de réchauffement climatique. On le sait, on est inquiet, mais on a du mal à se mettre au steak de soja, se mettre au vélo, oublier l'avion. Comment manager son cerveau pour passer à l'acte? Je vais vous expliquer.
Vous allez repartir avec votre panier garni bio, vous, ouais. Ça va aller vite. Emmanuel Dutheil, votre dernier sujet de l'année.
Le meilleur, je vais parler de moi.
C'est-à-dire vous.
Bah vous allez voir, c'est une petite surprise, parce que Eva a rien prévu. Moi, j'en ai prévu une pour vous, quoi, pour gagner, donc je vais parler de moi.
Je crois qu'on est prêt à entrer dans le vif du sujet. Nicolas, un petit mot fair play à Fred, histoire de détendre un peu l'ambiance.
Que Dieu te donne le typhus.
Eh bien, bonne dernière à tous.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Aujourd'hui, vous l'aurez compris, chers auditeurs, pas d'invités vedettes. Les vedettes, ce sont les stars de la rédaction d'Europe 1 qui ont fait cette émission tout au long de l'année. On leur devait bien ça. Alors évidemment, c'est dommage car ça prive un artiste en promo d'une belle tribune pour vendre ses dates de spectacle. Comme Eva l'a encore démontré hier, l'équipe est sauvage savait s'y prendre pour promouvoir un artiste. Votre spectacle reprendra normalement le 9 septembre. Eva, on donne quelques dates.
Alors, quelle date par exemple vous voulez? 16 septembre?
Bah oui, voilà, oui.
Non, cette attendez, dernière émission. Ils ont tous 150 000 dates de tournée.
Vous n'en pouviez plus de
J'en
cet exercice
plus,
de la
franchement.
Promo. Cette dernière émission va donc prendre la forme de 4 combats opposant chaque fois 2 des meilleurs journalistes de la saison. Et on va commencer par celui qui aura été pour nous un guide musical, un gourou du bon goût tout au long de la saison. Fred Goati dirige Jazz Magazine. Et même à Eva, qui s'y connaît pourtant assez bien en jazz, il a réussi à faire découvrir de nouvelles chanteuses, comme hier encore.
Il n'y en a qu'une que je ne connais pas.
Laquelle tu connais pas?
Bah, la première.
Ah bah très bien.
Alors, j'ai jamais entendu parler.
Tant mieux.
Elle est jeune ?
Elle est morte.
Ah d'accord.
Pour la dernière des airs. Est-ce qu'on va parler d'artistes vivants ou plutôt décédés ?
Quel escroc.
Bon, alors il y a quelques mois, Mathieu, je vous ai entendu dire à ce micro que dans votre jeunesse, vous aviez, je cite, tâté du saxophone.
Oh, enfin, il dit n'importe j'ai quoi. Effectivement... Vous avez quand même pas cru tout ce qu'il avait dit au fur et à mesure
crois
de cette émission.
Quoi. Surtout quand c'est Mathieu Noël qui le dit.
Bah, ça, c'est un des rares vrais que j'ai dit.
J'ai cherché à en savoir plus en menant une enquête approfondie. J'ai appelé les meilleures écoles de jazz parisiennes et genevoises. Mais
parisienne, non.
Rien. Genevoise, absolument rien, aucune trace.
Ah, c'est pas possible.
Alors j'ai fini par demander à notre archiviste et designer sonore Sébastien Bordenave si par hasard il n'avait pas un petit inédit. Alors, moyennant un pot de vin frôlant l'indécence, il m'a confié une banque privée enregistrée, m'a-t-il précisé, en famille il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est un vrai document ou un faux.
C'était mon plus beau concert, oui. Voilà. C'était le sommet de ma carrière. Mais non, pas du tout. Mais vous, t'es de ma gueule. Mais non, mais si j'avais su, j'aurais pris mon saxophone.
Non, mais alors, plus sérieusement, je vous
être
ai promis.
Humilié comme ça en place publique.
Je croyais que c'était une archive privée.
Le
moi.
Plus beau son du monde. Et c'est donc celui d'un saxophone, mais pas celui-là. Non, celui qui avait le plus beau son du monde au saxophone s'appelait Stanley Gajewski. Et Eva va nous dire son nom de scène dans quelques secondes. Un peu de jazz et de bossa nova, ça vous dirait?
Oui, moi je sais qui c'est. C'est le son le plus immédiatement reconnaissable dans toute l'histoire du saxophone.
C'est celui, Eva, de...
De Stan Getz.
Eh oui. Alors, je n'ai jamais épousé la bossa nova, disait Stan Getz. Je ne divorcerai donc jamais. Mais elle sera toujours l'une de mes meilleures maîtresses. Et aussi, elle était riche. Et oui, au début des années 60, ce doux et subtil mélange de jazz et de bossa fit entrer la sonorité sublime du saxophone ténor de Stan Getz dans des millions de foyers. L'album Getz Gilberto, donc Astrud Gilberto et João Gilberto, son papa, est l'un des plus grands best-sellers de l'histoire du jazz. Mais il ne faut surtout pas réduire Stan Getz à ce disque. Tiens, écoutez-le rebondir sur les barres de mesure avec la grâce d'un patineur, quelques années plus tôt, à Los Angeles, sur un tempo nettement moins alangui et en compagnie du vibraphoniste Lionel Hampton. Oula. Ça s'appelle improviser. Ce n'est pas la pratique.
On n'imagine pas le souffle qu'il faut pour faire un truc pareil.
Eh oui. Non,
mais vous si, moi, savez, j'imagine vous. Très bien, mais oui. Mais il en faut beaucoup.
Alors,
mais il a le souffle absolu. Ouais. Est-ce que c'est le souffle absolu?
Le souffle absolu, c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous faites en général?
Pas du tout. C'est que les grands saxophonistes, ils arrivent à respirer par le nez.
Le souffle continue.
Pardon, ça, c'est le souffle continue, tu respires par le nez pendant que tu expulses l'air par la bouche.
J'ai été troublé là. Je me dis, ça y est, je ne connais pas le souffle absolu.
Je peux vous dire que j'ai essayé souvent, je suis devenu tout rouge comme une tomate, ça n'a jamais marché.
Allez, restons encore un tout petit peu avec Stan Getz, dont le surnom certainement pas usurpé était tout simplement The Sound, le son. Octobre 75, il a 48 ans et il enregistre en duo avec un pianiste qui s'appelait Jimmy Rolls, qui avait accompagné notamment Frank Sinatra, Billie Holiday et, le vénard, Marilyn Monroe. Le morceau de Jimmy Rolls s'intitule The Peacocks. Écoutez bien, le thème de The Peacocks est si délicat et Stan Getz joue si divinement qu'il semble lui-même être le premier étonné que tant de beauté s'échappe de son instrument. Serait-ce pour ça qu'il arrête carrément de souffler et que l'on n'entend plus que les doigts courir sur les clés? J'ose le croire. Écoutez bien.
Et il a arrêté de jouer?
Voilà.
Qu'est-ce que c'est beau. C'est,
je laisse la parole à la musique, comme disait Daniel Filipacchi.
Mais vraiment, pour l'été, pour, si, si vous ne connaissez pas Stan Getz, si vous cherchez une musique comme ça pour démarrer la soirée ou la terminer, je vous recommande vivement le son de Stan Getz. Ils sont réunis une dernière fois pour que vous puissiez les comparer et décider une bonne fois pour toutes qui a la plus belle chronique. La grande finale continue.
Europe 1.
J'aurais mis une saison à comprendre quand était son émission hebdomadaire Délivrez-moi. Non, La Voix est libre. Nicolas Caro, tous les samedis.
Oui, merci, c'est le dimanche.
Ah,
c'était le samedi avant.
Mais c'est pour ça, Nicolas. Je vous écoute depuis tellement longtemps que c'est passé du samedi au dimanche. Si vous allez, on est perdu.
C'est pour ça.
Alors aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à mémoriser, mais j'ai trouvé un moyen mémotechnique. Maintenant, je dis c'est le week-end. A tout de suite avec le jubilé de Nicolas Caro.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
C'est le cœur partagé entre la tristesse des adieux et l'excitation des vacances qu'avec Eva nous vous disons aujourd'hui.
Salut. Salut, je suis venu vous dire salut.
Salut à
je
vous,
connais que cette phrase de la chanson.
Fidèle des après-midi. Ah bah, pourtant, ouais. C'est une chanson qui gagne à être connue.
Ah bon.
Salut à vous, fidèle des après-midi d'Europe 1 qui avez suivi avec passion les joutes neuronales de nos journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Qui sera élu chroniqueur de l'année? Eh bien, potentiellement n'importe qui. Même Nicolas Caro, sur un malentendu, peut l'emporter. Lui qui est actuellement pourtant sixième du classement général, tout peut basculer puisqu'aujourd'hui, c'est une sorte de quitte ou double géant. Les cartes sont rebattues et peut-être que la formidable énergie et le perfectionnisme du showman Nicolas Caro feront la différence. Une énergie communicative, comme on a souvent pu le constater en écoutant les rushs de son émission du week-end.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Ça vous embête pas si on refait le bonjour?
Ok, ouais, ouais.
Il était un peu...
Bon, on refait le bonjour.
Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Voilà.
Voilà.
C'est à cause de vous qu'il reprend.
C'est toujours la meilleure, effectivement. Alors Nicolas, aujourd'hui, alors c'est une chronique, c'est votre dernière chronique. Mmh. Vous nous parlez de 11 livres en 3 minutes.
C'est une tradition. C'est un livre que je conseille chaque été et à chaque rentrée, des gens me disent qu'ils l'ont lu et qu'ils sont devenus addicts. Ils rejoignent donc la communauté Hornblower. Hornblower, Horatio Hornblower, c'est le nom du héros inventé par l'écrivain britannique Cecil Scott Forester. C'était un best-seller dans les années 50, on l'a un peu oublié depuis. C'est l'histoire d'un adolescent anglais, 17 ans, pas très sûr de lui. Faute de mieux, il s'engage dans la marine. Le problème, c'est que d'abord, on est à la fin du 18e siècle, les combats font rage sur la mer, et par ailleurs, Horatio n'a pas du tout le pied marin, il a même le mal de mer.
Alors c'est, et pourtant, c'est lui le héros.
Eh bien oui, et on va le suivre pendant 11 aventures, 11 romans qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre,
oh,
ou dans l'ordre des grades.
Il commence à la bonne idée,
ses carrières.
Tu parles.
Comme aspirant. Il y en a 11, il y en a 11.
En plus, il nous dit qu'il la sort tous les étés, hein, donc. C'est la même chronique que l'année dernière.
Il s'est tiré deux balles dans le pied, une dans chaque pied.
C'est un cadeau que je vous fais à tous, parce que c'est un livre que tout le monde adore une fois qu'il a été lu. Enfin, ouais. 11 surtout. Il commence sa carrière comme aspirant de marine au bas de l'échelle des officiers, et petit à petit, il va grimper les échelons jusqu'à finir amiral, parce que même s'il est mal à l'aise sur un bateau, il est d'une intelligence redoutable et il s'en sort par la ruse, par le courage, et du courage il en faut. Dans la marine de l'époque, les combats sont d'une extrême violence contre les Espagnols puis contre les Français et Napoléon. Au passage, on en prend souvent pour notre grade, et le vainqueur est celui qui manœuvre le mieux son bateau, des immenses voiliers à l'époque, qui connaît le mieux les vents et qui recourt à la meilleure stratégie. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, dans ces livres, c'est que même sans être un
spécialiste
du vocabulaire maritime, on vibre quand même avec l'équipage, on a peur avec Hornblower et on triomphe avec lui, évidemment.
C'est, en fait, il y a 11 chapitres, quoi. C'est 11 livres, c'est génial.
Il s'est inspiré en plus d'un personnage réel, de plusieurs, de Thomas Cochrane, par exemple, qui était amiral britannique. Le prénom de Hornblower, c'est Horatio, c'est donc comme Horatio Nelson, le héros de Trafalgar, mais surtout c'est Hornblower qui a inspiré beaucoup de marins, comme en témoigne cette anecdote que nous raconte l'un des membres de la communauté Hornblower, l'écrivain Yann Kefelek.
C'est le moment où l'amirauté britannique s'inquiète de l'avance de la flotte japonaise en direction de l'océan Indien, et comme ils n'ont pas de réponse à cette avance, il y a l'un des amiraux britanniques qui dit « Il serait intéressant de savoir en la circonstance ce que ferait notre ami Hornblower ». Hornblower, lequel n'est encore une fois qu'un héros d'encre et de papier.
C'est la puissance des romans.
Et oui, et la qualité du livre de Forester.
La relance, en tout cas.
C'est la puissance de la relance. C'était ma dernière relance de l'année,
mais
Nicolas.
Écrivez-les, mon vieux.
Ça
d'ailleurs, les navires sont eux aussi des personnages à part entière dans ces romans. C'est 11 romans qu'il faut lire.
c'est 11 chapitres dans le roman.
Ils sont tous disponibles en format
qu'il
poche.
Faut lire, évidemment. Merci Nicolas Carreau. Petite imitation de Patrick Sébastien en relisant Le Marquis de Sade pour terminer en beauté.
C'était que de l'amour.
Merci. Europe 1. Quand je lui ai annoncé ma décision de rebattre les cartes, de dissoudre le classement général au dernier moment alors qu'elle en occupait la pole position depuis des mois maintenant, elle aurait logiquement dû me dire...
Oui.
Non. Et bien, contre toute attente, elle m'a dit
bisous, bisous.
Voilà qui est Anne Le Gall, la c'est journaliste la c'est plus vrai. Gentille du c'est monde. Vrai. Son ultime chronique environnement arrive juste après.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
On serait dans Un jour sans fin, vous savez, avec le générique, c'est ça. On a l'impression de revenir.
Et vous êtes moi, ma Bill Murray ?
Oui. Je sais pas, ou votre marmotte, la marmotte.
Ou ma petite marmotte. Si l'idée folle de faire voler en éclats le classement général à l'occasion de la dernière émission ne m'avait pas traversé l'esprit, elle aurait dû être sacrée aujourd'hui chroniqueuse de l'année. Leader du classement général, Anne Le Gall avait épaté nos invités successifs par la qualité de son travail et la puissance dévastatrice de son humour. D'ailleurs, c'est après une de ses vannes. C'est après une de ses vannes que Jérôme Commandeur avait décidé de mettre en parenthèse sa carrière.
Voter pour les plantes, c'est une bonne façon de ne pas se planter.
Ouais, c'est marrant parce que c'est très rare une vanne qui rend triste.
Anne, voilà. Ne m'en voulez pas d'avoir changé les règles à la dernière minute, d'autant que vous pouvez toujours, dans un dernier coup de rein, vous pouvez vous imposer quand même. Avec quel sujet fort allez-vous terminer en beauté la saison?
Mais alors, juste avant cela, vous m'avez fait une réputation de journaliste sympa, tout ça, généreuse. Alors, j'ai un truc pour vous, Mathieu, je sais que vous avez adoré cette chronique sur le recyclage des rouleaux de papier toilette pendant le confinement.
Fascinant. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je pense m'en servir cet été avec mon
fils. Alors, je vous offre justement le manuel pour fabriquer un lustre déco en rouleau de papier toilette.
C'est très beau.
Oh, mais c'est
voilà.
Très beau.
Très beau.
Et mais c'est vrai, c'est beau.
Je vous offre aussi la matière première.
Voilà, oh, quelques rouleaux.
Ça va être un petit lustre hein, quand même.
Oui, là, vous pouvez vous y mettre dès ce soir. Là,
hein. Vous n'allez pas sur la toilette, Anne. Hein.
On va tout savoir aujourd'hui. On révèle tout sur nos chroniqueurs. Merci. Merci beaucoup, Anne. Ça me touche énormément.
C'est un honneur.
C'est un pot de vin aussi.
Mais j'en ai un pot de vin aussi.
Oui, bah calmez-vous, Gwenty. J'imagine
bien. Je vais les mains vite parce que je suis confiant.
Wow. C'est ce qui vous a perdu tout au long de la saison.
Alors, attendez.
Attendez, tout peut se retourner. Anne.
Et on va donc se demander comment motiver son cerveau pour devenir écolo, puisqu'on sait, il y a du réchauffement climatique. On le sait, c'est inquiétant, mais c'est compliqué de changer nos habitudes. Et pourtant, la prise de conscience écolo démarre très jeune. Écoutez, ces enfants, ils ont entre 6 et 13 ans.
Il ne faut pas laisser la lumière tout le temps allumée. S'il y a des déchets par terre, faut les ramasser pour les mettre dans une poubelle.
Ben, je laisse pas couler l'eau, je mets les déchets dans les bonnes poubelles.
Ben, il faut acheter moins d'emballages plastiques.
On va chercher un vrac, on fait du vrac.
Ben voilà, c'est bluffant, mais à l'âge adulte, eh bien, faire du vrac, manger moins de viande, acheter des objets d'occasion, passer au quinoa, laisser sa voiture au garage, tout ça, c'est plus compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Eh bien, parce que le bénéfice de ces gestes-là est à long terme. Or, notre cerveau aime les récompenses immédiates, m'a expliqué Coralie Chevalier, oui. Qui est chercheuse en sciences du comportement à l'INSERM.
On est informé, d'ailleurs, 85% des Français disent qu'ils ont peur du réchauffement climatique, donc les gens savent qu'il y a un problème. Mais par contre, on ne sait pas forcément ce qui va avoir un effet ou pas. Donc on ne comprend pas toutes les actions du quotidien qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Alors du coup, comment on fait, nous, pour se motiver à être écolo ?
Eh bien, du coup, il faut chasser ces pensées qui se présentent spontanément par défaut dans notre cerveau et on va essayer de mobiliser volontairement des pensées plus positives, plus encourageantes. Alors par exemple, toutes celles qui donnent la fierté d'agir. Voilà, il faut se dire qu'on prépare un avenir pour nos enfants, qu'on agit pour la génération suivante. Ça crée de la bonne conscience. Et la bonne conscience, ben, c'est agréable à vivre. Autre stratégie...
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé.
deuxième astuce, on retient 3-4 chiffres très concrets qui donne un peu du sens aux gestes écolo. Par exemple, on se souvient qu'une entrecôte par semaine, tous les ans, enfin chaque année, c'est l'équivalent de 3 vols Londres-New York en avion.
Ou donc alors on arrête l'avion, on arrête l'entrecôte.
Alors, justement, on a le choix. On peut tout arrêter l'un ou l'autre, déjà, c'est pas mal. Une tomate de saison, si on veut, bah c'est 7 fois moins de gaz à effet de serre qu'une tomate qui a poussé sous serre. Voilà, ce sont des références concrètes. Dernier facteur de motivation, c'est de jouer collectif. Parce que vous trouverez toujours un groupe de quartier pour faire du covoiturage, s'approvisionner en circuit court, faire du nettoyage, faire un potager. Donc voilà, à plusieurs. C'est forcément plus facile et plus marrant.
Alors cette phrase, par exemple, c'est dommage que vous ne l'ayez pas dit avant.
Oui, c'est dommage qu'il n'y ait plus d'émission, parce qu'à plusieurs, c'est plus facile et c'est plus marrant. C'est sûr que ça aurait fait un joli lancement. Merci Anne Le Gall, c'était votre dernière chronique de l'année.
Europe 1.
Notre prochain prétendant au titre de chroniqueur de l'année aura connu cette saison plus de bas que de hauts, mais à force d'y croire, il a su sortir de l'ornière.
Ouais ! Je romps la spirale de l'échec.
Et si Emmanuel Duteil, chef du service éco d'Europe 1, réalisait le plus gros hold-up de l'histoire en emportant sur le fil une compétition de laquelle il est pour l'instant 14e.
C'est ça, c'est une compétition cette histoire.
Bref, vous m'avez compris.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'un de nos invités l'avait comparé à une sorte de Harry Potter joufflu. Comparaison qui avait moyennement enchanté Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, qui pourtant avait effectivement réussi à instiller de la magie dans toutes ses chroniques d'économique.
Peut-être qu'il faut rappeler pourquoi c'est si bas. C'est parce que ça dépend d'une formule mathématique qui dépend de l'inflation et de l'évolution des taux d'intérêt. Et un autre chiffre pour que ça ait été intéressant, il y a eu un taux de rémunération qui a été créé pour que les gens placent leur argent sur ce genre de produit. Mais c'est un vrai boulot.
Ça va, c'était pas trop chiant ?
Mais non, c'était toujours vraiment génial. Alors, Emmanuel, vous êtes en plein comeback, vous enchaînez les points et parfois même les victoires. Elle est loin à l'époque où vous chouiniez dans les bras d'Ève Roger en proie au tourment des losers. Aujourd'hui, vous avez votre destin entre vos mains. Nous vous écoutons pour l'ultime chronique de l'année.
Alors Mathieu, vos équipes, hein, Eva Rock, Anne Le Gall, Claire Dutronc qui vous supportent, m'ont dit « Manu, c'est ta dernière, tu donnes tout, tu lâches tout ». J'ai donc décidé de parler du seul sujet qui compte, moi. Je vais vous donner quelques informations. Je m'appelle Emmanuel Duteil, ça vous le savez, j'ai 40 ans, bon voilà. Je suis né à Nantes, mon père s'appelle Noël, ma mère Evelyne, je mesure 1m72, bon le poids je le garde pour moi. Mais surtout, je suis atteint d'amusie. Et c'est de ce dernier point, et uniquement de ce dernier point, rassurez-vous, dont j'ai envie de vous parler cet après-midi. Alors, c'est quoi l'amusie ? Eh bien, ça veut dire que je suis insensible, désolé Fred, à toute forme de musique. C'est-à-dire que ce soit du classique, du rap, de tout ce que vous voulez, même la pire des musiques,
ça
la plus commerciale.
Rien.
Ça ne me fait rien. Je peux vous dire que parfois, quand même pour faire plaisir, je vais assister à des concerts. Du coup, je suis le seul quasiment à Paris à connaître tous les plafonds des grandes salles de spectacle, tellement le son me paraît long. Donc je préfère typiquement aller voir un concert à l'Opéra Royal de Versailles, puisque le plafond est très joli. Ça m'était arrivé lors d'un concert de Vanessa Paradis. Comme tous ceux qui sont victimes d'amusie, je ne perçois pas le rythme, la mélodie ou les accords de musique. Et pourtant, j'entends très bien, puisque j'entends très bien vos bêtises ici. La musique peut être congénitale ou résulter d'une lésion cérébrale. Pour être honnête, je me suis auto-diagnostiqué. J'ai lu il y a des années de ça un article dans L'Express qui en parlait. Et plus je lisais l'article, plus j'avais l'impression qu'il était écrit uniquement pour moi. Du coup, j'ai fait un test sur le site de l'Université de Montréal qui est spécialisée en la matière. Et je peux vous dire que la réponse était sans appel.
Mais concrètement, comment ça se passe pour ceux qui sont victimes d'amusie ?
C'est très simple. On a du mal à reconnaître un air familier sans l'aide de paroles. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on met des musiques aléatoires, un soir avec des amis, on passe une première fois Jimmy Somerville. Je dis, tiens, c'est qui ça ? On me dit, c'est Jimmy Somerville. Trois chansons plus loin, je dis, oh, mais on connaît ça, non ? Jimmy Somerville encore.
Ça, c'est l'amnésie, non ?
Et c'est autre chose. Dix chansons plus loin, et j'assure que cela s'est passé sans alcool, puisqu'à l'époque, j'en buvais pas. Je dis, tiens, c'est qui cette fille ? On me dit, mais tu le fais exprès. C'est encore Jimmy Somerville. Je savais quand même que c'était un garçon. Mais donc, vous voyez à quel point mon cerveau, alors que c'est.
Mais c'était le même morceau à chaque fois ?
Non, c'était des morceaux différents de Jimmy Somerville. Pas. Mais donc, je suis dans l'incapable de reconnaître quelqu'un. Même quand quelqu'un chante faux ou des notes, comme on dit, hors tonalité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, selon la page Wikipédia sur la musique, vous pouvez aller la lire hein, si ça vous intéresse. Lorsque l'on écoute de la musique, différentes parties du cerveau sont sollicitées. Lorsque l'une d'entre elles est lésée, cela peut provoquer donc une amusie. Et la musique peut être plus ou moins dérangeante. Vous avez aussi une étude très sérieuse du CNRS de 2013, si vous voulez en savoir un peu plus. Et chez certains, ça peut aller jusqu'à donner des maux de tête. On estime que 4 à 5% de la population est atteinte d'amusie. Et du coup, c'est aussi très marrant parce que vu qu'on n'a pas le sens du rythme, par exemple, on ne sait pas danser. Donc, là, on danse avec 8 grammes d'alcool à peu près au milieu d'une piste, on arrive à s'en sortir. Mais avant, je n'ai jamais 8 grammes d'alcool, rassure-toi maman. Au-delà de moi, Theodore Roosevelt ou Che Guevara sont connus pour avoir été atteints d'amusie. Vous avez aussi l'économiste Milton Friedman. C'est comme ça que je retombe sur mes pattes.
Oh, voilà, c'est un peu d'économie. Bravo Emmanuel Duteil. Ça suscite quand même des questions. Ça veut dire que ça a dû être une torture pour vous, l'adolescence, ou l'époque où on sort notamment en boîte pour danser, parce que vous n'aimez pas ça, mais surtout vous ne prenez aucun plaisir avec la musique en fait.
Il n'y a aucun plaisir, mais je peux dire que par exemple les personnes qui m'accompagnent sont très heureuses de faire 8 heures de voiture avec moi, parce parce qu'ils peuvent mettre n'importe quoi sur l'autoradio. Je suis là, j'attends
la danse des canards.
Je conduis. Mais non, vous savez, finalement, c'est quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas être réellement déçu de ne pas le connaître. Après, le seul truc qui est très compliqué, c'est que du coup, j'ai une culture musicale au niveau zéro. Et quand vous ne connaissez pas très bien les gens, généralement, vous commencez à parler du dernier film, de la dernière musique. Alors moi, je peux dire que je ne sers à rien dans ces banalités. C'est peut-être pour ça que je me suis rabattu sur mes sujets aussi chiants que le livret.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Une petite vacherie sur Anne Le Gall pour terminer.
Pas maquillée, franchement, elle est superbe.
Merci. Europe 1. Toute la saison, la séquence qui suit a été un chemin de croix pour la malheureuse Eva Rock. Le sadique test de Culture G qui l'opposait à l'invité et que je truquais allègrement au gré de mon humeur. Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'heure de la revanche a sonné pour Eva et que c'est moi qui vais trinquer cet après-midi.
Ah bah vous allez pas être déçus, hein.
C'est dommage de le prendre comme ça, moi je pense qu'on devrait rester en bon terme quand même, Eva.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'heure des adieux a sonné pour toute la bande de l'équipe est sauvage qui va bientôt se dissoudre dans la nature. L'heure est aux embrassades, enfin aux coudades, vu qu'on n'a plus le droit. Mais aussi, j'en ai l'affreux pressentiment, aux règlements de compte les plus mesquins. Ainsi, il ne m'étonnerait pas qu'Eva Rock profite de cette dernière pour retourner le quiz de Culture G contre moi.
Exactement, parce que normalement, Mathieu, c'est le moment où je me fais humilier par l'invité. Eh bien, pour cette dernière, c'est vous, Mathieu Noël, qui allez jouer. Vous allez être opposé à une personne que normalement on a au téléphone. Allô ?
Oui, bonjour, je suis la personne que normalement vous avez au téléphone.
Ah, Elise et Moon.
Bonjour, et voilà, Elise
et
Moon.
Une voix reconnaissable, un humour percutant. C'est-à-dire tout le contraire de Mathieu Noël.
Ah, t'es prêt à en découdre, hein.
Oui, on va en découdre, ne vous inquiétez pas, comptez là-dessus. Et Eva, est-ce que c'est moi qui lui annonce ou c'est vous?
Ah, allez-y, annoncez lui. On va lui faire un petit quiz.
Mathieu, tu seras en vacances dans pas longtemps, c'est bien ça?
Tout à l'heure.
Tout à l'heure même.
Ok, donc tu vas l'être tout le restant de l'année. Il y a un petit changement. C'est ce que j'appellerais le petit plus de repas qui court un peu après l'audimat. Et ce petit plus, il s'appelle Elise et Moon.
Voilà. On va
et ce gros mois. Il s'appelle Mathieu Noël. Voilà.
J'ai toujours pas compris le principe de votre quiz, Elie, mais je suis prêt.
Mais non, on va jouer.
Non, mais moi non plus. Hein,
on va jouer.
Ah oui, vous brandez, quoi.
On va jouer, Elie. On va jouer pour rendre hommage à l'intelligence des questions qu'on a eues toute cette année dans le quiz. Je vais vous donner des infos complètement débiles, mais elles sont vraies. Alors, c'est parti, Mathieu Noël. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux, d'accord? On commence avec vous, Mathieu.
Là, vous dites que les informations sont vraies. Donc, si elles sont vraies, elles sont vraies.
Écoutez-moi.
Vous notez, Elie, qu'elle ne sait pas présenter le quiz.
Il y a des pièges.
On comprend rien.
Il y a des pièges,
vous êtes
évidemment.
Méchant, Mathieu, non, c'est fou. Il est né avec ça, c'est dingue. Hein. C'est le diable en personne, c'est fou cet homme.
Mathieu Noël, c'est à vous de jouer. On ne saura jamais qui a inventé la bouche à incendie parce que le brevet a brûlé dans un incendie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
En tout cas, c'est drôle.
C'est très drôle, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est faux.
C'est vrai?
Non.
Ces bornes à incendie souvent rouges ont été inventées, oui, mais par qui? Eh bien, impossible de le savoir. Au bureau des brevets à Washington en 1836, il y a eu un incendie et le papier a été brûlé et détruit.
C'est très drôle.
Elise et Moon, c'est à vous.
Excusez-moi, je sers à quoi, moi?
Ah oui, à vous.
Mais attendez,
Elise et Moon. Si je passe au microscope une de vos larmes de joie, une de vos larmes de tristesse, eh bien, ce ne sont pas les mêmes larmes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Différentes.
D'après vous?
Je ne crois pas, non, je pense qu'elles sont identiques.
Eh bien non, c'est vrai. Les larmes contiennent. Les larmes contiennent.
Déjà le tutoiement, j'apprécie moins le mot.
Écoutez-moi, Elie, les larmes contiennent des huiles, des enzymes, des anticorps, et leur composition diffère selon que vous produisez.
Diffère selon la joie.
Voilà, la joie ou la tristesse. Mathieu Noël.
Oui.
Sur Neptune, un jour est plus long qu'une année. C'est vrai ou c'est faux?
C'est surtout idiot cette question. Un jour est plus long qu'une année?
Oui.
Comment c'est possible?
Réfléchissez.
Une année terrienne, un jour sur Neptune est plus long qu'une année sur Terre.
Voilà.
C'est ça que vous dites? La réponse est oui.
C'est faux.
Ah,
vous savez pourquoi?
Vous
avez
j'adore.
Parce que j'adore, c'est sur Vénus que c'est vrai.
Oh, c'est sur Vénus. Vous avez entendu, Elie? Vous avez entendu la perfidie?
Oui, j'ai entendu.
C'est sur Vénus que c'est vrai, c'est dégueulasse. Mais j'ai confondu.
J'adore
Vénus.
Le mépris avec lequel vous avez envisagé cette question. C'est une humiliation, c'est génial. Ah, je suis heureux, mais je ne peux pas savoir. Alors, allez-y.
Alors, une question sur la gaufre de Liège pour Elie. Sur la gaufre de Liège,
je vous donne la réponse.
Foutez-moi la paix avec les gaufres de Liège.
Je vous donne la réponse quand même à propos de Vénus et de Neptune. fortune. Ouais. Un jour, c'est quand la planète fait un tour sur elle-même. Une année, c'est quand la planète fait le tour du Soleil. On est d'accord jusque-là. Sur Vénus, il faut 243 jours pour qu'elle fasse une rotation sur elle-même et juste 224 jours pour tourner autour du Soleil.
Oui, bon, je me suis planté, de toute
voilà,
façon.
Voilà, vous êtes planté. Ouais. Elise et Moon, une canette de Coca coule dans l'eau alors qu'une canette de Coca light ne coule pas dans l'eau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors attendez, les canettes de Coca, elles sont en alu. De toute façon, ça flotte un peu. Je dirais que la canette de Coca normale, elle coule. Et la light, elle flotte.
Et oui, c'est vrai, vous avez raison. Exactement.
Vous vérifiez les réponses Mathieu. Ou quoi ?
Celle avec du Coca zéro flotte encore un peu plus. Les canettes contiennent tout un peu d'air. La canette de Coca normale reçoit une poussée d'Archimède inférieure à celle de son poids. Un poids plus important à cause du sucre.
Voilà, exactement.
Oui, oui, je ce que j'aime,
c'est l'espèce de sourire, de petit rire ironique et prétentieux. Ah, mais c'est une horreur, ce mec, en fait.
Attendez, on va lui poser une dernière question.
Cette question vaut 3 points, si jamais.
Non, après, il en a encore une aussi.
Ah mince.
Pour il change Mathieu. Les règles, en plus.
Non, c'est ce que je fais tous les jours.
Ouais. Mathieu Noël, Jacques Dutronc a chanté nu devant Georges Pompidou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Mais je vois pas comment. On le saurait, il y aurait des archives, non?
Bah, non. Et c'est vrai, il a confié sur Europe 1 à Nikos dans les années 70 dans un appartement près de l'Elysée. Jacques Dutronc était avec Brigitte Bardot et Françoise Hardy dans une soirée. Le président était là, ça l'a pas empêché de faire un petit récital tout nu, improvisé.
Mais c'est incroyable.
Oui.
Bon, alors ça, je suis content de l'apprendre.
Allez, la dernière question, mais Elie Semoun a déjà gagné. Mais Elie, le Chilien Miljenko Vukovic.
J'ai même gagné avant qu'on commence. Le Chilien.
Miljenko Vukovic est devenu célèbre parce qu'il s'est fait tatouer 83 fois le visage de Julia Roberts sur le corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Ah oh ouais, il y a des tarés comme ça. Oui, je pense que c'est vrai.
Et oui, c'est vrai. Il s'est arrêté à 83 fois parce que la place qui lui reste, c'est les fesses. Et par respect pour Julia Roberts, il a dit « je ne peux pas faire ça ». Voilà.
Et voilà, c'est Elie Semoun qui remporte le quiz. Mais parce que évidemment, je l'ai laissé gagner parce que je respecte les invités, les stars qui ont fait le succès de cette émission. Elie, bravo.
Elie, même pas en plus.
Elie, qu'on peut retrouver.
Et vous savez que je suis en Corse là actuellement.
Il fait beau.
Dans la mer.
Ouais.
C'est-à-dire que je vous ai quand même accordé une demi-heure de mes vacances.
Oh, la classe.
Enfin, je sais pas. Hein, non,
oui.
Non, c'est énorme.
Oui, Elie, on vous retrouve évidemment dans Duc au bout 3 qui vient de sortir en DVD Blu-ray et un coffret de 3 DVD d'ailleurs. Et puis vous êtes en tournée dans peu de temps. Aussi.
Ça repart.
Oui,
ça repart,
j'espère, hein. Si la deuxième vague.
Non, elle restera là où elle est.
Pas, mais, voilà. Ah ouais, j'espère, ouais.
Pour l'instant, on entend d'autres vagues derrière vous, Elie. Ouais. Profitez-en bien.
Exactement.
Ouais, on vous entend très bien.
Voilà, exactement. Et je vous invite au Casino de Paris, d'ailleurs, fin décembre. Vous viendrez voir mon spectacle.
On sera là.
Merci beaucoup, Elie.
Passe un bel été.
Merci pour le clin d'œil. Europe 1. En temps normal, la rubrique suivante est consacrée aux conseils télé écran des Baroques, des conseils d'une précision et d'une clarté toujours étonnantes.
Ouais, c'est incroyable, c'est une vraie série. Enfin, regardez-le, vous allez voir, c'est génial.
Oui, regardez-le, c'est génial. L'occasion d'ailleurs, Eva, de vous remercier pour tous ces conseils éclairés. Mais je sais pas, aujourd'hui, je sens que vous allez nous surprendre. On verra quel traquenard vous avez encore conçu.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Alors, c'est le moment de vous l'avouer, mes chers agneaux. Depuis le début de la saison, je vous bassine avec une étude de l'université d'Oxford sur laquelle chaque soir, les couples perdraient 17 minutes à s'engueuler devant l'écran d'accueil de Netflix. Et bien, comme c'est la dernière, je vous lis le communiqué de l'université d'Oxford qui nous ont envoyé dès le 16 septembre dernier, mais que j'ai préféré conserver à l'abri des regards dans le tiroir de mon bureau. Madame, monsieur, merci de ne plus mentionner le nom de notre université. En effet, aucune enquête de ce type n'a été menée par nos chercheurs. Oxford ne saurait donc être associé à des résultats non seulement faux, mais totalement imaginaires. Merci de bien vouloir agréer, etc., etc. Bref, Eva, vous nous parlez télé, vous avez encore mitonné une petite surprise.
Non, j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube que je voulais vous faire partager. Non, mais avant de partir, comme ça, vous aurez les vacances pour la découvrir. Elle a été créée par un humoriste. Alors, il est assez jeune, tout n'est pas parfait, vous allez l'entendre, mais voici à quoi ça ressemble.
Est-ce que quelqu'un pourrait me trouver un stabilo qui marche? Putain, je m'entends en écho, c'est génial. Oh yeah, welcome back. In love,
exciting and new. Ah, c'est pas ma bonne bonnette, ma bonne bonnette.
Come aboard, we're expecting you.
Ève Roger, forte de sa légitimité et du... Hop, on va l'en faire. L'équipe est sauvage, l'émission si palpitante de bout en bout qu'elle fait dire aux invités comme François Baron-Huyen. J'ai le temps de manger un sablé encore là.
Alors vous l'avez bien reconnu. bienvenue. Nonsense, Mathieu Noël, caractéristique, s'exprime par petits cris stridents et autres onomatopées incompréhensibles. Qualité principale, assume faire rire à n'importe quelle heure de la journée. Défaut principal, fait rire les autres à n'importe quelle heure de la journée, à mes dépens.
This smells like my vagina.
Qui est le con qui m'a mis que le son c'était Eva alors que c'était Céline? Si le con c'est moi, je me vire. J'aime beaucoup le Portugal. J'ai fait du camping au Portugal à une époque, je vous raconterai ça.
Oui, on a hâte.
Le numéro 10, Roxane, pour cet après-midi à Chantilly.
C'est bon la Chantilly.
Oui, merci Thierry Léger.
Vous êtes mon Zorro, Mathieu Noël.
Ah bon? Je dessine à la pointe de l'épée.
Oui, bon, allez-y, enchaînez, va.
Enchaînons. Envoyez
l'épée. Voilà. You're the best thing about me. YouTube.
C'était un hommage évidemment et j'ai été sympa parce que les offs de vos conneries, il y en a aussi un catalogue bien fourni que je garde. Qui ne sont pas diffusables. Bah, hop, je sais pas, on va les garder précieusement. On sait jamais, ça pourra toujours resservir.
Merci Eva pour cette chaîne YouTube qui, heureusement, Dieu soit loué, n'existe pas.
Ça, vous ne savez pas encore.
Non, elle n'existe pas.
En sortant, je vous recommande.
Qui aurait qu'un seul abonné, ça serait vous. Merci beaucoup Eva. On regarde pas la télé donc ce soir. Hein.
Non, on regarde pas la télé, allez faire la fête. Surtout.
Il fait beau ce soir.
Et buvez un coup pour nous. Voilà.
Avec modération, évidemment, c'est important de le dire jusqu'au bout, Eva.
Oui, d'accord.
La première manche de la Derdéder se termine. Non pas deux, mais quatre nouveaux journalistes en compétition vont nous rejoindre pour vous livrer leur meilleure chronique de l'année. Des journalistes qui, tout au long de la saison, ne nous auront déçus ni par leur travail, ni par leur motivation, ni surtout par leur éthique.
Lundi dernier, il y avait une formation corruption à Europe 1.
Non, anti-corruption.
Anti-corruption.
Oui, oui, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Est-ce qu'on doit vraiment faire des chroniques où on peut juste se défoncer, me disait à l'instant Mathieu Charrier qui nous rejoint. Mais non, mais le principe pour cette dernière, c'est quand même de faire des chroniques et le meilleur l'emportera. C'est un fait, les amis. Cette émission est la dernière de l'équipée sauvage. Une saison à vous chatouiller les zygomatiques tout en stimulant vos neurones. Évidemment, on est triste de se quitter, mais Eva n'est plus à une déception près. C'est pareil avec ses plans Tinder. Parfois, elle y croit.
Attention, ça monte. Ah non, ça marche pas là.
Ce sont des choses qui arrivent, au lit comme en radio. Mais vous pouvez compter sur nous pour faire une sacrée fiesta en cette ultime journée. Car les meilleurs journalistes de la rédaction sont réunis pour vous offrir leur ultime chronique et peut-être, pour le plus méritant, rafler sur le fil le titre de chroniqueur de l'année. Avec à la clé, Eva, une magnifique récompense.
Un panier garni. Avec du foie gras, du saumon, du vin, voilà tout ça. Et si vous n'êtes pas le numéro 1, Anne a remis en jeu son panier qu'elle avait d'office gagné, puisqu'elle était elle était la leader du championnat.
On peut en discuter de ça.
Mathieu Charrier, même à la pondération, vous perdez quand même. C'est un autre panier, mais que des produits bio. Voilà, à vous de choisir.
Pour celui qui aura la place du con, le quatrième. Quatre nouveaux concurrents nous ont rejoints. Parmi eux, celui qui, malgré le handicap pourtant énorme de porter des lunettes de pédocriminel, a réussi à se hisser sur la deuxième place du podium avec 125,5 points. Bien sûr, Alain Sirou a souvent essayé de nous expliquer qu'il n'y avait vraiment que ses lunettes qui étaient cheloues chez lui, mais hélas, son rire nous a prouvé le contraire. Bonjour Alain. Alors, avec bonjour quel Mathieu. Sujet allez-vous l'emporter aujourd'hui sur le fil?
Eh bien, combattant jusqu'au bout, l'été sera beau, l'été sera chaud, l'été sera martien, mon ami.
Mon Dieu.
Parce que l'équipe est sauvage va continuer sur une autre planète, puisque vous désertez. Et moi, je vous le dis, Mathieu, l'équipe est sauvage, c'est pour les années qui viennent, sur la planète rouge. Et l'objectif, c'est la question que vous posez depuis longtemps, c'est y a-t-il de la vie ou en tout cas des traces de vie? Allez, je vais vous expliquer ça.
Pourtant, on avait dit que le Ricard, on commençait à la fin de l'émission. Certains ont ouvert la bouteille un petit peu en avance. Alors attention Alain, vous êtes deuxième, mais on s'en fout car les compteurs sont remis à zéro. Vos 125 points, la fup. Et je vous présente trois nouveaux rivaux, prêts à tout pour vous voler la victoire. Accueillons Eva, une formidable brochette de talent. Anissa Mbida, Ève Roger, Mathieu Charrier. Parmi ces trois-là, Ève Roger est la seule actuellement sur le podium à la troisième place. Mais Anissé me disait hors antenne son projet.
La retourner complètement.
Une belle boucherie en perspective. Vos sujets, messieurs, dames. Puisqu'il y a des sujets, Mathieu, il a fallu bosser aujourd'hui.
Ouais, moi je vais vous parler de 10 films qui ressortent en salle et qui étaient sortis entre 1929 et 1934 avant le fameux code ACE. Je sais pas si vous connaissez ça, à Hollywood avait été mis en place un code de bonne conduite. Il y avait des films qui étaient sortis juste avant qui faisaient du grand n'importe quoi et qui ressortent en salle pour cet été. C'est la Warner qui fait ça. Je vous raconterai cette histoire.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Moi, j'essaie de mettre un peu de fond parce que l'autre qui nous raconte qu'il est insensible à la musique, il y a un moment, il faut savoir.
Là, petit tac
pour Emmanuel Duteil. Ça va mal finir tout ça. Alice, c'est votre sujet aujourd'hui.
Ben moi, je vais vous parler d'une super idée pour les vacances. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller où on veut. Il y a des confinements, il y a des interdictions, etc. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un complexe hôtelier qui vous garantit la météo de Bali alors que vous êtes dans le Gers ou en pleine Lorraine.
Mais comment c'est possible ?
Il va vous expliquer.
C'est extrêmement intriguant. Ève Roger, avec quoi allez-vous finir cette saison ?
Eh bien Mathieu, je suis tombée par hasard sur un petit livre sur ma table de nuit qui s'appelle 50 exercices pour surmonter sa séparation. Oh. Et j'ai trouvé que ça tombait à pic aujourd'hui, donc on va voir comment on va pouvoir se dire adieu.
Eh bien, vous me tirez presque les larmes, mais c'est effectivement un bon choix de sujet.
Mais qui vote au final aujourd'hui ?
Vous allez voir, il y aura des surprises jusqu'au bout. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, s'il a un peu de temps, nous... Nous verrons. Et baroque.
Dernier florilège de la saison, un moment subtil, délicat, poétique, hein, parfois mis en son et en musique, par Sébastien Bordeneuf, comme d'habitude.
Donne-moi ta sève.
Moi, j'ai pas beaucoup bu pendant ces vacances. Je suis tombé sur des... J'ai ouvert du rouge bouchonné. J'ai eu plein de galères de... Et je me suis même... Attends, ça, si tu l'enregistres pas. J'ai fait une indigestion de caviar. Oh si, libertine, c'était bien quand même.
Je suis libertine.
Non, c'est parce que tu as mis le clip.
Ah oui, j'étais excité. Ça me faisait le kiki dur. C'est parfait. T'as vu comment on fait quand on est bourré, en fait c'est... Ou alors c'est nul, mais on a l'impression que c'est bien. C'est souvent comme ça quand t'es bourré. C'est fou comme je m'améliore en impro. Ah putain, il y a Indochine dedans, bordel de Dieu, là. Il y a Indochine, je veux pas Indochine. Oh, mon ex. Maître Juliette Armanet, tiens.
Je me suis affligée. Ça fait 120 fois que je l'écoute.
Mais c'est un vrai problème. Mais c'est qui ?
Mais quoi, c'est qui ?
C'est qui, on a entendu, là ? Il est complètement taré, ce mec-là.
Une indigestion de caviar.
C'est fou. Mais c'est vous, ça m'a tué. Vous allez manger beaucoup de caviar. Moi, je mange des œufs de limpe une fois que j'ai goûté. Et le caviar, ça coûte très cher. Non.
Ça a augmenté les œufs de limpe ces derniers temps.
C'est très impressionnant. Mais
c'était un petit florilège des quelques bêtises que vous avez pu dire depuis toutes ces années. Voilà. Alors, encore merci pour tout ce qu'on a vécu parce que franchement, on s'est bien marré.
On s'est bien marré, même si c'était vraiment un très beau montage. Je sais pas comment il a fait pour bidouiller les sons comme ça.
Très
impressionnant. Merci pour ce dernier mix, mon cher Sébastien Bordeneuve.
Europe 1.
On va démarrer cette deuxième manche avec le plus sexy des journalistes d'Europe. À la fois expert innovation d'Europe 1 et toy boy des baroques, Anissa Mbida vous a surtout aidé à déjouer les perfidies des nouvelles technologies, comme par exemple cet assistant foireux qui vous fait écrire automatiquement n'importe quoi dans vos SMS, comme la fois où Anissa lui-même avait envoyé à la patronne d'Europe 1
« Trouve-moi dans la salle de réu ».
Heureusement que Constance Benquet a de l'humour. La toute dernière chronique du seul d'entre nous dont le corps est prêt pour la plage, Anissa Mbida arrive.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Mathieu Charrier, Ève Roger, Alain Sirou et Anissa Mbida sont nos invités d'honneur pour la dernière édition de l'équipe est sauvage. 2 heures en forme de bouquet final pour désigner non plus le chroniqueur du jour mais le chroniqueur de l'année. Et l'heure est venue, Eva, d'entendre l'ultime chronique d'un journaliste que vous aimez énormément, même si vous avez eu des différends, notamment artistiques. On n'a jamais réussi à vous réconcilier, notamment sur Nougaro.
Ah. Un son que je suis pas noir, je suis blanc de peau, c'était quand même pas super intelligent.
Mais tu plaisantes.
Mais non, mais...
Mais non, mais elle est magnifique cette chanson, tu peux pas dire un truc pareil.
Non mais sérieusement, tu trouves que c'est bien écrit te dire Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau, c'est bizarre
mais, oui,
comme
mais
truc.
Parce que si tu le fais, c'est hors contexte.
J'adore Nougaro, hein, mais ça, je trouve que c'est nul.
Mais c'est parce que t'es noir, tu dis ça.
Ne nous fâchons pas aujourd'hui, les amis. Anissa Mbida, comme on vient d'entendre, vous êtes plus douée en nouvelles technologies qu'en musique. Et aujourd'hui,
qu'en paroles de musique,
pour votre toute dernière chronique, celle qui va peut-être vous permettre de vous extirper de la 4e place, cette tristement célèbre place du con qui est la vôtre, quel sujet avez-vous choisi ?
Mais moi, je vais parler d'un nouveau type de complexe hôtelier qui a été vraiment taillé pour le monde d'après. Ce monde d'après, on ne peut plus voyager, on ne peut plus aller où on veut. Vous savez qu'on aime toujours les fameux climats tropicaux. Et bien, donc, c'est un complexe hôtelier qui est capable de recréer un microclimat autour du resort, comme on dit. Et donc, vous pouvez avoir le climat de l'île Maurice en Lorraine, par exemple, qui vous garantit un beau temps, mais tout le temps, toute l'année, et du soleil toute l'année. Et c'est pas un concept marketing un peu fumeux. Hein.
Il y a déjà
un projet de construction d'hôtel au Canada. Alors, vous voyez le Canada, je sais que vous n'êtes pas très doué en géographie, mais le Canada, c'est quand même loin des tropiques.
Oui.
Et eux, ils garantissent le climat de Bali, les températures du Bali et du soleil toute l'année dans cet hôtel.
Comment ils font pour
regarder ? Regardez, vous avez les images, c'est pas du tout.
C'est
des astuces architecturales. Pour le soleil, par exemple, ils vont mettre l'hôtel au-dessus d'une montagne. Donc, du coup, ils vont être au-dessus des nuages à chaque fois. Ensuite, côté architecture, ils ont mis des bâtiments sont tous concaves. pour capter vraiment la lumière. Et comme ça, ils peuvent capter la position du soleil toute la journée. Il y a de la lumière toute la journée. Et surtout, ils ont installé des réflecteurs partout, des petits miroirs qui vont renvoyer tous les moindres rayons de soleil un peu partout. Donc, ça sera éclairé en permanence, tout le temps.
Mais d'accord, et pour la température, comment ils font ?
Et ben là, ils utilisent de la géothermie, donc ils récupèrent l'eau chaude qui est en sous-sol, ils vont chauffer partout, évidemment, tout le complexe, mais ils vont aussi chauffer la terre, le sol qui est tout autour.
Si Anne Le Gall elle est sous tente d'oxygène.
Ouais. Non, mais c'est de la géothermie, on ne gaspille pas d'énergie. Et donc, du coup, il peut faire froid, et il peut cailler tout autour de l'hôtel. Dès qu'on passe les grilles, hop, on se retrouve dans un climat tropical. Et l'intérêt, c'est qu'on peut planter ces fameuses plantes tropicales et être vraiment dans un complexe, dans une haute température, un vraiment microclimat.
C'est combien la nuit ?
Alors, j'ai pas les prix. Vous posez la question à Anissé ou pour l'hôtel ?
L'hôtel n'a pas encore ouvert. Et l'idée au départ, c'était un hôtel. Le projet a été lancé l'année dernière. Et l'idée au départ, c'était de faire en sorte que les Canadiens se déplacent pas, fassent pas des milliers de kilomètres en hiver pour avoir un petit peu chaud. Et depuis que le confinement est passé par là, depuis qu'on parle de ce fameux monde d'après, beaucoup de gens sont intéressés par ce concept. Et donc, par exemple, le Club Med se réfléchit à faire ces fameux Center Parks, microclimat, hôtel resort d'un nouveau genre, un peu partout dans le monde. Mais demain, si vous voulez voyager, si vous voulez une belle température, il n'y a pas forcément besoin de faire des kilomètres.
Ce qui est beau dans les voyages, ce n'est pas juste la température et le degré d'humidité et le soleil.
Quand on ne peut pas rencontrer
les peuplades locales.
Mais quand on ne peut pas. Oui, dit-il, quand il va à Hilton 5 étoiles.
Je ne vais jamais à Hilton 5 étoiles, c'est mal me connaître.
Mais vous ne sortez pas de votre hôtel, j'hallucine.
Mais quelle image vous donnez de moi ? Mais c'est scandaleux ! Mais cette émission doit se terminer ! Merci Anissé Mida. Eva, ça fait 3 minutes que vous fixez Anissé du regard, je vous sens très ému.
Il m'a regardé, il a envie de moi.
Ou alors il y a juste une poussière dans l'œil, on ne sait pas.
Europe 1.
À suivre, cette saison, il y aura eu ceux qui ont pris la compétition à la rigolade et ceux qui étaient là pour gagner. Passant et repassant 3-4 fois par jour dans notre open space pour vérifier leur place au classement général et s'exclamant, même en étant 12e, car oui, Mathieu Charrier est sûr que si on applique une pondération des points au nombre de participations, il est sur le podium. Savants calculs qui n'ont plus aucune importance aujourd'hui puisque la victoire finale ne dépend que de sa chronique. Son thème, 10 films exceptionnels qui ressortent en salle et qui vont vous régaler cet été. Le baroud d'honneur du plus mauvais perdant de la bande.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Il aura été cette saison le plus ronchon de nos journalistes en compétition. Jamais satisfait de son classement, toujours à râler que les points devraient être pondérés en fonction du nombre de participations. Oui. Je suis même étonné qu'il ait décidé de venir cet après-midi.
Ah, ça m'a mis chonchon, j'ai failli pas venir.
Ah, non, interdiction d'être chonchon pour la dernière. Hein. Mathieu Charrier, vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'effacer d'un coup d'un seul toute une saison de lose avec une seule chronique.
J'y crois
la dernière.
De toute façon, tout est pipé ici. Ouais. Moi, je préfère informer
vous
nos auditeurs.
Vous voulez dire les thés sont pipés, parce que tout est pipé. C'est... Oui. Bref, donnez-nous votre chronique,
une
Mathieu.
On rediscutera d'une ch'touille. Voilà. C'est un ch'touille déjà. Alors, remettons-nous dans le contexte du Hollywood des années 20.
Ah,
à l'époque,
s'il vous plaît,
y a toute une presse qui relaie les scandales qui secouent le milieu du cinéma. Alors, vous avez un acteur qui est accusé d'avoir tué une comédienne au cours d'une soirée de débauche. Vous avez beaucoup de stars qui sont retrouvées mortes d'overdose. Il y a ce cinéaste bisexuel qui est retrouvé assassiné. Bref, évidemment, dans l'Amérique puritaine, c'est Hollywood qui est en train de se développer.
Ça choque.
Ces sauvages qui font du cinéma, ça commence à choquer. Et c'est là que va être mis en place un code. On est en 1927. William Hays, qui préside l'association interprofessionnelle des grands studios hollywoodiens, se dit on va mettre en place un code. Écoutez bien, le code, c'est quand même pas mal. Déjà, interdiction d'invoquer le nom de Dieu dans les films. Interdiction de montrer le trafic de stupéfiants, l'hygiène sexuelle et l'accouchement. Et puis, les films ne doivent pas présenter sous un jour favorable l'usage d'armes à feu, les criminels, les scènes d'amour physique, la séduction des jeunes filles et les unions mixtes entre noirs et blancs.
Sauf
que
il reste pas grand-chose,
le texte est mis en place.
De quoi on parle alors ?
Il n'y a pas vraiment de contrôle, donc il n'est pas respecté. Puis quelques années plus tard, en 1929, rebelote, les studios se disent « bon, il faut vraiment qu'on mette en place un code ». Là, il y a les figures catholiques qui sont en train de faire pression, qui disent « attendez, nous on va dire à tous nos cathos de ne pas aller voir vos films si vous ne respectez pas tout ça ». Donc là, on reprend le code et on en rajoute. Alors vous avez les relations sexuelles hors mariage qui sont interdites à l'écran, les scènes de baisers et de danse qui doivent rester chastes, et les prêtres ou hommes politiques ne peuvent être ridiculisés ou incarner des personnage antipathique, c'est-à-dire que Mathieu Noël s'est fini. Donc, les studios paravent ce document tout en se disant, là encore, ça ne sera pas vraiment contraignant, ce qui est assez vrai dans un premier temps. Et c'est là que beaucoup de films sortent, on va en parler dans un petit instant, jusqu'à 1934, date à laquelle toutes ces règles vont finalement s'appliquer. Ça va durer jusqu'en 1967, donc vous vous rendez compte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est le début du grand puritanisme dans le cinéma américain.
Et Warner ressort donc 10 films de cette période pré-code.
Exactement, c'est au moment où la machine à rêve était la machine à vice. Vous avez notamment Liliane qui date de 1933. C'est l'histoire d'une femme dure à cuire qui séduit et conduit tous ses amants comme pourrait le faire un homme à l'époque. Là encore, dans l'Amérique puritaine, vous imaginez comment ça réagit. Vous avez Serenada 3 d'Ernest Lubitsch qui montre Myriam Hopkins.
Un film de qui exactement?
Ernest Lubitsch.
Comment?
Lubitsch.
Lubitsch.
D'accord. Lubitsch.
Il vous a fallu.
Il est connu.
Mais je sais qu'il est connu.
C'est vous qui le prononcez. Parce que vous regardez avec votre regard de Merlin Free là. C'est pas le premier venu.
Mais je sais très bien. C'est juste que vous n'arriviez pas à prononcer son nom.
Encore une femme incapable de choisir entre deux hommes et qui va assurer un ménage à trois. Donc il y a 10 films qui étaient formidables en noir et blanc. Qui n'étaient jamais ressortis en salle et qui ressortent cet été sous l'appellation Forbidden Hollywood, dans les salles de cinéma, notamment en France. C'est Warner qui s'occupe de ça. Parce que vous savez, je vous ai parlé en début de semaine de cette problématique de remplir les salles. Donc c'est l'occasion de ressortir plein de vieux films américains. Donc cet été, il n'y aura pas de blockbuster américain dans les salles, mais il y aura ces films-là formidables. Donc allez-y, il y a toute une liste de 10 films. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Je ne vais pas tous vous les faire. Mais oui, Eva, vous levez le doigt.
Oui, parce que ça me fait penser à une série que j'ai trouvée formidable, que je vous avais conseillée, oui, et que vous avez le temps de regarder maintenant pendant l'été. C'est sur Netflix, ça s'appelle Hollywood.
Et
c'est
qui vraiment résume l'ambiance.
Qui résume cette ambiance.
Cette ambiance de l'époque, tout le monde se tape tout le monde,
exactement,
tout le monde s'en fout.
Et en même temps, la censure, etc. C'est vraiment formidable, regardez cette série.
Tout le monde se tape tout le monde s'en fout.
Ça pourrait être aussi le résumé de l'équipe nationale.
Merci Mathieu Charrier, expert cinéma d'Europe 1, et aussi, on le sait peu, doublure de Jean Dujardin dans le dernier OSS 117. Un choix qui s'est imposé à la production, comme il expliquait un jour à Nicolas Caro durant une coupure pub.
Tu sais ce qu'on m'a dit, moi, plusieurs fois, ce qui est assez, pour le coup assez étonnant.
Johnny Depp.
Non. Jean Dujardin. Dans l'attitude et tout.
Je vois ce qu'ils ont voulu dire, mais...
Ouais, de loin, hein, mais...
Toi, t'es plutôt Jean du fond de cour.
Merci, Mathieu Charrier, le beau gosse de la rédaction. Notre prochain concurrent est une des stars de notre équipe. Toujours sur le podium, il a malgré tout porté un regard toujours bienveillant sur ses poursuivants, même s'il lui est arrivé d'être déçu par leur sujet dont il avait mal compris le thème.
Et au téléphone.
Ah, au téléphone.
Bah oui, hélas, tu ne le verras pas en
vrai. Ouais.
Pour une fois qu'elle allait parler des animaux en chaleur.
Non, c'est les animaux et la chaleur.
Il y a eu des petites déceptions. Alain Siou arrive pour son ultime sujet.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Cette fois, nous y sommes. C'est la dernière ligne droite, la dernière demi-heure de l'histoire de l'équipe est sauvage, la grande compétition qui a vu s'affronter les meilleurs journalistes d'Europe 1. Parmi eux, notre consultant scientifique, l'éminent directeur de la revue Ciel et Espace, Alain Sirou, qui nous aura fait voyager comme personne. Alain, camarade formidable, à qui on pourrait reprocher tout au plus un léger côté psychorigide, voire militaire dans l'organisation. Même Madame Sirou s'est plaint dans l'intimité où tout est réglé au millimètre.
En avant, à gauche, à gauche, en avant, à droite, en arrière, à droite.
Alain, pour votre dernière chronique, je suis sûr que vous allez me parler des extraterrestres, me dire enfin qu'on a la preuve de leur existence.
Pas du tout, pas du tout. Je vais vous parler des Martiens.
Encore.
Mais Martiens, ça fait partie des extraterrestres bien connus de notre système solaire.
Bien sûr.
Non, plus sérieusement, cet été, 3 sondes partent en direction de Mars. 3 sondes, et vous allez le croire sans doute. La première, c'est les Émiratis, les Émirats Arabes Unis, qui envoient une sonde dans quelques jours, le 14 juillet, pour faire le tour de Mars et montrer qu'ils sont capables d'abord de le faire et ensuite de faire de la science, c'est-à-dire de regarder l'atmosphère martienne pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est évaporée.
C'est ce qui s'est passé. Ça
oui,
s'est
vraisemblablement, il y a 3 milliards d'années, il y avait vraiment de l'eau sur Mars, il y avait une atmosphère. Et
donc,
là,
il y avait
reste
de la
pratiquement...
vie
ben, on n'en sait rien. Ça, c'est votre
conclusion. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est mon intuition.
Il faut le démontrer. Une intuition, ce n'est pas suffisant. Ensuite, il y a les Chinois qui partent quelques jours plus tard avec, pareil, une sonde spatiale qui va aller déposer un rover, un astromobile à la surface
mais
de l'astre.
Mais ça a déjà été fait, ça.
Oui, mais ce n'est pas parce que ça a été fait que ça ne peut pas se refaire. Et surtout, la Chine va démontrer sa capacité à pouvoir réussir ça. Je vous signale que les Américains ont eu 50% de succès, ou 50% d'échecs, donc vous voyez, c'est difficile. Et les Soviétiques et les Russes, 100% d'échecs. C'est-à-dire, c'est très compliqué, c'est
très
difficile.
C'est-à-dire que le petit robot, le petit rover se casse la gueule ?
Ben, il faut se poser. Et se poser sur une planète à 65, 70 millions de kilomètres d'ici, sans se crasher, eh ben, c'est pas trivial du tout. Et puis la troisième chose, ce sont les Américains qui partent, alors sans doute aux alentours de fin juillet, début août, avec une sonde qui s'appelle Mars 2020, qui s'appelle aussi Persévérance. Ça consiste à... L'idée, c'est de ramener des échantillons de Mars sur la Terre.
Mais ça, on n'avait jamais eu l'idée avant.
Ben si, mais simplement, c'est une architecture, vraiment.
Mais donc, vous vous foutez de ma gueule parce que vous m'avez offert un jour Et mon fils, il a un petit bout de Mars.
Oui, vous avez.
Alors, normalement, on a déjà réussi à
ramener. Bonbon, ça.
Non, on n'a pas été le chercher.
En chocolat, ça s'appelle.
C'était ça l'arnaque.
On n'a pas été le chercher. Ce sont des morceaux de Mars
qui sont arrivés à nous,
qui ont été éjectés par une collision avec un astéroïde et qui sont arrivés sur la Terre. Là, l'idée, c'est d'aller chercher dans un endroit où on pense que peut-être que la vie a pu exister. Donc, l'idée, c'est de se poser avec cet engin, Mars 2020, d'aller récolter sur place des échantillons, les mettre dans des tubes, les mettre en petit tas, et puis ensuite d'avoir une deuxième mission qui va aller les chercher et les mettre en orbite autour de Mars.
Tout ça
et
pour
une
des cailloux.
Une troisième mission qui va les ramener sur Terre.
Mais c'est pas toujours la même chronique, Alain Sirou.
500 grammes.
Tout 500 ça grammes. Pour 500 grammes de cailloux.
500 grammes qui coûteraient 10 milliards de dollars. Ça fait quand même 20 millions de grammes. Bon, je sais que dans cette maison, on n'est pas prêt à dépenser 20 millions pour un gramme. Mais vous comprenez l'enjeu qui va s'étaler sur plus de 10 ans. L'idée, c'est de répondre à votre question, Mathieu. C'est y a-t-il
Il serait temps que quelqu'un réponde à ma question.
Oui, mais vous comprenez que pour être sérieux, il va falloir vraiment se défoncer. Et ça, c'est vraiment l'idée du fond. C'est qu'il ne peut pas y avoir juste des suppositions. Il faut des démonstrations, des preuves. Et à une annonce extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Et moi, je trouve ça génial que dans les années qui viennent, eh bien, vous me réinvitiez régulièrement pour dire « Et alors ?» Et je vous dirais « Attendez, Mathieu, et là, on est en train de faire ça. On est en train de collecter des trucs, on les met dedans. Puis vous savez, ça peut exploser. Et puis, attendez, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Européens. » Tout le monde se prépare à répondre à votre question. Et cette question, elle a été posée il y a 2500 ans par les philosophes grecs qui... On dit, sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien, nous en sommes, je dirais, très proches pour la réponse.
Et vous êtes toujours très proches de la réponse, mais jamais. C'est comme les feux de l'amour. Il y a plein d'épisodes, il n'y a jamais la
mais
fin.
Mais parce qu'on ne zappe pas dessus, parce qu'on n'appuie pas sur un bouton marqué on-off. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui fait la beauté, le génie et l'extraordinaire de la recherche et de la quête, finalement, philosophique.
Et Elon Musk, il ne doit pas y aller sur Mars?
Ça s'appelle de la propagande. C'est un brin soviétique. On a oublié l'Union soviétique, mais il suffit pas de le déclarer pour y aller.
Très bien. Mathieu, il y a des mots interdits avec Alain.
Oui, c'est vrai que le mot Elon Musk, on a compris que vous n'êtes pas actionnaire. Merci beaucoup.
Alors qu'Eve Roger a une Tesla.
Ah, ça c'est vrai, mais elle n'a pas qu'une Tesla. On va en parler. On va faire le patrimoine d'Eve Roger. C'est juste après. Restez avec nous. Ne partez pas, le fils qui écoute. À suivre, elle a souvent été dans cette émission la voix de la raison. Sagesse qu'elle a puisée dans son jacuzzi à remous, sur son toit terrasse vue Tour Eiffel. Et même si ses conclusions ont parfois blessé certains d'entre nous.
Un jour sans embrasser n'est qu'une demi-journée.
Ah bah alors je suis à mi-temps depuis longtemps.
Ces analyses sociétales auront marqué l'histoire de cette émission. Eve Roger, chef du service société, arrive pour récupérer son dû, le titre de championne de l'équipée sauvage. À tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Tant qu'il y aura des gens qui dorment dans la rue tandis que d'autres se prélassent dans des piscines, la lutte des classes continuera de saper le fondement même du vivre ensemble. Un siècle et demi plus tard, le constat demeure, des gens dorment toujours dans la rue pendant que certains privilégiés se prélassent dans de dispendieux jacuzzi. Un des symboles les plus indécents, quand on sait ce que gagne un pigiste à Europe 1 de cette fracture sociale, c'est évidemment le luxe dans lequel vit Eve Roger, chef du service société d'Europe 1, qui ne se rend même plus compte de sa chance.
Il marche ton jacuzzi ?
Oui, il marche très bien mon jacuzzi.
T'en profites ?
En ce moment, pas trop, parce que j'étais à la mer.
Eh oui, Eve, vous avez déjà tout. La villa à la mer, le penthouse avec jacuzzi à Paris. Il ne vous manque qu'une chose, la victoire finale. Dans l'équipée sauvage, votre tout dernier sujet vous permettra-t-il de boucler la boucle ?
Eh bien, on va voir. Vous connaissez peut-être cet état de sidération quand la personne que vous aimez, avec qui vous vivez parfois depuis des années, ben vous quitte. Alors, c'est la sidération, confusion, tristesse, incompréhension. Et le petit guide que j'ai trouvé sur ma table de nuit dit il y a un chemin de la guérison. Et ce chemin, pour guérir, ça commence par savoir où on en est de notre séparation. Donc, à quelle étape on est ? Donc, il y a l'étape, le déni. Je fais comme si rien ne s'était passé. J'essaie de mener la vie la plus normale possible. Par exemple, si on file la métaphore, Mathieu, oui. Je réfléchis déjà à ma chronique de rentrée.
Je suis dans le déni.
Oui. Sinon, il y a la colère, la dépression. Mais celle que je préfère, c'est la négociation. Vous pensez qu'il y a toujours un petit truc à gratter ? Alors, on déploie tous les stratagèmes pour reconquérir son amoureux. Donc, je pourrais dire, il n'y aurait pas une toute petite place, Mathieu, entre Stéphane Bern et vous, là, pour l'année prochaine.
Vous allez tenter comme ça jusqu'au bout.
Voilà. Non. Et puis, vous allez faire ce travail, vous arrivez à l'acceptation, et là, le boulot commence. assurances pour vous reconstruire.
Et il faut commencer par quoi?
Alors ça, c'est l'exercice numéro 14 et je l'adore. Il faut ne plus communiquer avec votre ex.
Bien sûr.
Alors vous supprimez...
longue expérience et beaucoup de dossiers, visiblement, pour Maître Charrier.
Ghosting, champion du monde du ghosting.
Donc ça commence évidemment, vous répondez plus aux messages ou SMS, vous effacez sur les réseaux sociaux tous les endroits où vous pourriez le retrouver.
Ça doit être dur hein, pour l'ex quand même de Guillaume Canet de ne pas avoir de message de Guillaume, comme ça doit être dur. Hein. Franchement, c'est terrible.
Vous lui interdisez de rentrer chez vous et puis surtout, vous refusez, ça c'est écrit noir sur blanc dans ce petit bouquin, vous refusez toute dernière relation charnelle.
Pourquoi?
Ben, alors, parce qu'il ne faut pas, il faut...
Ce qui est pris est pris.
Il faut rompre le lien. Et pour résister à la tentation, le livre dit qu'il faut avoir une phrase magique. Alors, l'exemple du livre, c'est pas magique du tout, c'est « Je suis très bien tout seul ». Moi, je pense qu'il faudrait plutôt se dire « N'oublie pas que c'est quand même un très mauvais coup pour résister à la tentation.
» Mais si ce n'est pas le cas. Expérience encore, vous voulez partager avec nous?
Et puis enfin, j'adore ça, il faut plus jamais l'appeler par son prénom, il faut trouver un nom de code. Alors par exemple, moi j'ai une copine.
Ça va encore ça, c'est sobre.
Vous avez d'autres surnoms?
Non, je ne les donnerai pas.
C'est ça. Alors moi j'ai une copine, elle appelle son ex par ses initiales, mais effectivement ça pourrait être ça, bâtard, c'est... ça peut être le con, ça peut être Covid.
La enfin... chose, ça marche.
Ah, oui.
COVID, oh, c'est COVID. Horrible.
Qui a dit Covid?
La Covid.
C'est Eve qui a dit Covid.
Le Covid. Voilà, et puis
la Covid.
La Covid.
Ouais. La Covid.
Oui, on a changé.
C'est un ex, ça peut devenir le Covid du coup.
Oui.
Oui, alors enchaînons quand même.
Bon. Et puis il y a dans le livre aussi, alors je ne sais pas qui a écrit ce bouquin, mais dit je m'engage à ne pas monter dans ma voiture pour aller espionner mon ex. Je sais pas, on peut aller à ce moment-là.
Ça vous aurait traversé la tête de faire
jamais,
ça?
Jamais. Sinon, on vous appelle le dingo, c'est ça votre nom de code.
Ouais. C'est sûr. Alors, c'est pas parce qu'on voit plus son ex qu'on n'y pense plus.
Non, mais ça permet quand même de remonter, ne plus avoir de contact du tout, de remonter la pente de l'estime de soi qui a quand même été bien attaquée par cette rupture. Et pour ça, vous avez besoin d'une équipe gagnante. Alors, ça, j'adore. Vous vous souvenez de la chronique sur prendre des vestes? Il fallait avoir une copine de la loose. Et là, c'est l'équipe gagnante pour vous aider à surmonter cette séparation. Et cette équipe gagnante, elle est formée de 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et dans le livre, il raconte que les 5 personnes que vous voyez le plus autour de vous, vous êtes la somme de ces 5 personnes. Alors j'ai réfléchi, qui était votre équipe gagnante, Mathieu? Alors j'y ai mis votre fils, votre compagne, Olivier Pouls pour la boisson, Eva pour les petits plats et Sébastien Bordenave pour les petits sons. Voilà.
Et ça me définit?
Ça serait ça, votre...
Il était temps d'arrêter cette émission. Hein. Très bien, ok, je le note.
Et puis on termine par l'exercice le plus difficile, sans ça on ne peut pas rebondir, c'est il faut pardonner. Pour pouvoir rebondir et terminer sa séparation.
Écoute bien, Charlie.
Voilà. Alors, il faut écrire une lettre de pardon, bien rédigée et tout. Tout bien consigné.
Manuscrite ou un document Word suffit?
Comme vous voulez. Plutôt manuscrite, je pense que c'est encore plus fort. Vous écrivez les fautes de votre ex, mais aussi les fautes que vous-même vous avez commises. Alors, moi, j'y vais, Mathieu. Moi, je vous demande de me pardonner parce que j'ai beaucoup parlé de sexe dans cette émission pour gagner des points.
Trop.
Dans mes chroniques. Et puis maintenant, je vous pardonne de ne pas avoir souvent voté pour moi, préférant votre chouchou Alain Sirou. Avec ses pauvres histoires d'étoiles.
J'ai souvent voté pour vous.
Alors maintenant qu'on est libérés l'un de l'autre, Mathieu, tracez votre route et qu'elle soit la plus belle possible.
Oui, mais s'il y a une place pour vous dans l'émission prochaine, j'ai noté que vous étiez candidate. Merci Eve Roger. Êtes-vous curieuse de connaître l'avis de Mathieu Charrier sur votre ultime papier?
Ça, on s'en fout, c'était pas bon sa chronique.
J'aperçois une personne extrêmement importante. Ladies and gentlemen, événement historique dans l'équipe sauvage. Une star entre dans le studio. La plus grande star, à vrai dire, qu'on ait jamais reçue dans cette émission, puisqu'il s'agit de la patronne d'Europe 1 et du JDD et de Paris Match et de plein d'autres trucs. Elle-même, elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de tout ce qu'elle dirige. Mesdames et messieurs, Constance Melchier. Constance, une femme de pouvoir n'intervient dans une émission que rarement, uniquement pour présenter les évolutions de la grille d'Europe 1 ou quand Olivier Pouls a préparé un plat qui a l'air vraiment trop bon.
Alors normalement, moi j'aime pas les paupiètes. Et alors là, j'ai quasiment fini ma paupiète et j'ai fini mon verre de vin.
C'est ça aussi, Constance Melchier. Merci de passer nous voir, Constance.
Merci, vous savez que je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup ri. Enfin, je ris souvent, bêtement d'ailleurs, mais là, particulièrement bêtement, j'ai beaucoup ri en vous écoutant cette année. Vraiment.
Et, Constance, j'ai une question plus prosaïque.
Là,
est-ce que vous êtes bien remise de votre soirée d'hier? Enfin, un petit pot, n'est-ce pas? Un petit pot de départ.
Un petit pot de départ où j'ai bu moult rhum à la fin avec Nicolas Canteloup qui était fin sous et avec Christophe Ondelat qui a sabré le champagne dans la rue. Avec un sabre grand comme ça, en cassant la bouteille, le propriétaire du restaurant était terrorisé.
Voilà. Ça s'est bien terminé.
Ça s'est bien terminé tard.
Ça s'est terminé très tard.
Non, pas du tout. Je suis, je les adore. Vous aurez tous des prix.
Oui, mais il faut les chiffrer. Donnez-moi un stylo.
Je vais y aller.
Merci beaucoup, Constance Vinquet.
Merci à vous pour cette année. Vraiment, merci.
Merci à vous pour votre bienveillance aussi.
Europe 1.
toute la saison. Il vous aura sauvé la mise quand vous rentriez les mains vides à la maison. Olivier Pouls, notre expert gastronomique, se prépare pour sa dernière recette de l'année. Certainement quelque chose de très équilibré, de très light, à son image, quoi. Lui qui a souvent été sur la même longueur d'onde que nos invités.
Des testicules de taureau.
Au Riesling.
La Terre des Verts de Délices in Extremis.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Parmi nous, il est le seul qui aura sa place un jour dans la galerie de l'évolution. Dans un bocal derrière une vitre de plexiglas sécurisée pour éviter le vol de cette précieuse relique, on pourra lire « Foi d'Olivier Pouls ». Premier homme à avoir filtré dans sa vie plus de 1300 hectolitres de Beaujolais. Quelle sera, Olivier, votre ultime recette de la saison ? Ça fleure bon dans le studio en tout cas. Ça fleure bon l'oignon.
Je sais que vous aviez aujourd'hui décidé de faire une émission sans invité, mais malheureusement, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai quelqu'un qui a absolument tenu à venir et je n'ai pas pu l'en empêcher, d'ailleurs les services de sécurité d'Europe 1 non plus. Je ne sais pas si vous avez vu le Hummer couleur rose framboise décoré en rondelles de saucisson qui est garé devant l'entrée d'Europe 1.
Je crois que je l'ai reconnu.
Et ouais, Snoop Doggy Bag a absolument tenu à venir pour la dernière. Alors c'est parti. Et mec, qu'est-ce que tu crois ? Que Snoop Doggy Bag va s'en aller comme ça ? Bah alors si c'est la dernière, on va se péter le bide à la pisse à la dière. Oignon fondu, tapenade et anchois. Ouais, arrêtez, va, c'est pas que pour toi. Wesh Mathieu, fais pas ton malin. Évidemment, en dessous c'est de la pâte à pain. Bon les gars, cette fois c'est fini. Oh Snoop Doggy Bag vous dit pas merci. Si on a picolé, bouffé et bien ri, bah regarde mon gars, moi j'ai surtout grossi.
Le flow exceptionnel du plus grand rappeur belge. Merci Olivier.
En tournée tout l'été, malheureusement, avec la Covid, c'est compliqué pour les festivals. Mais en tournée d'apéro, certainement.
Et Olivier, est-ce que vous allez nous donner la recette autrement qu'en rapport
de la
pizza
dernière ?
Il l'a donné.
Mais si, mais c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas eu le mot au four, chaleur tournante.
Non,
j'attends ce mot-là, c'est la seule partie de la recette que je comprends.
Après avoir fondu vos oignons, disposez tout ça avec la tapenade, avec les
anchois.
Les petites anchois, tout ça, four 25 minutes, chaleur tournante, 190 degrés.
Comme il a expédié la chronique, il était là pour faire le show et uniquement.
Mais surtout, vous remarquerez que je vous en ai apporté une.
Mais magnifique.
On va laisser le studio dans un bel état parce que, vous dire que ça sent quand même un peu.
Ah oui, oui.
Et ben voilà, c'est mon cadeau de fin d'année, cher ami.
Merci beaucoup. Ça vous rappelle les ruelles du Vieux-Nice, ça, Eva ?
Pas que les ruelles.
On va se quitter là-dessus. Olivier, on vous retrouve dans la tête des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h demain sur Europe 1.
Europe 1.
Le moment fatidique approche et contrairement à mes sombres prédictions, cette dernière n'est pas partie totalement en sucette. On a notamment évité le dérapage de trop, celui où on aurait encouragé Olivier Pouls à imiter l'accent chinois.
Et je ne vous le ferai pas avec un accent chinois à deux balles comme vous aimeriez me l'entendre dire.
Allez Olivier,
pas du tout. En se trouvant, on ne peut pas parler comme ça.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Nous y sommes les amis, c'est le bout du chemin, la fin de l'aventure pour tous les protagonistes de l'équipe sauvage, la première compétition journalistique au monde. Alors, même s'il n'y aura qu'un seul vainqueur, je tenais à vous dire bravo à tous.
Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian.
Alain, Axel, Anne, Emmanuel, Fred, Hélène, Arthur, Henri, Ève, Nicolas, Mathieu, Anissé, ils sont tous en train de s'embrasser.
Qui c'est qui vient mettre ses doigts ?
Non, les règles de distanciation sociale doivent prévaloir jusqu'à la fin de l'émission. Comme nous avons la chance d'être avec Constance Benquet, la présidente d'Europe 1, eh bien, nous allons donner le droit de vote à Constance. Constance, c'était vous.
Combien de points vous donnez à
de
Constance ?
L'année en plus. Ah non, mais c'est horrible de l'année.
Bah, de l'année. 10 points.
10 points de Constance.
Constance.
Non, c'est horrible. Ah bah, tu te rends compte, c'est le choix de Sophie. Tu me demandes de choisir entre les enfants.
Exagérons.
Nicolas Caro.
Nicolas Caro, 10 points pour Nicolas Caro qui, pour l'instant, il prend la tête du championnat. C'est incroyable.
C'est
un rebondissement de dernière minute. Mathieu Charrier va déposer une réclamation. Mais n'oublie pas, tu parles à ta patronne. Eva, juste, ne tergiversons pas. L'heure est venue de départager nos champions. Voici le dernier quitte ou double de l'histoire. Chacun de nos journalistes a 10 secondes pour nous expliquer pourquoi il mérite la victoire finale. On va commencer par vous, Mathieu Charrier. Je vous sens bien.
Comme
vous
par
sens
hasard.
Bien
comme par hasard.
Qui était là, Mathieu ?
hein, toutes ces années pour se lever à 5h, venir dans votre petite matinale. Il n'y a pas grand monde autour. Je crois qu'on est les seuls avec Nicolas Caro, à être là depuis le début.
Et bah ça fait deux déjà.
À vous avoir, non, je partage mes points, à vous avoir soutenu. Qui est là pour aider Claire Dutronc, à lui donner les numéros quand elle a besoin? Qui est là pour aider Romain quand il a besoin de faire des chroniques courtes pendant le confinement, hein? Qui est là pour écouter Sébastien se plaindre tout le temps?
Alors que vous ne vous plaignez jamais.
Jamais.
Fred Goetti, pourquoi voter pour vous?
La première fois que j'ai parlé au micro d'Europe 1, c'était en 1975 à Pierre Belmar. Bon, on va pas remonter aussi loin. J'ai passé une année à parler de rock, de jazz, de chansons, de tous les styles de musique, mais aujourd'hui j'ai le blues, je suis très triste. Et la seule façon de me consoler, c'est de voter pour moi.
Votez pour vous, et je note que pour que je vote pour vous, vous m'avez offert un très beau disque, un vinyle.
En piano solo de qui j'arrête.
Eva Rock, pourquoi voter pour vous? Non, vous n'êtes pas en compétition. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous?
Parce que moi j'ai été récupérer ce qui devait manquer à un chroniqueur, puisque vu que je suis 14e et aujourd'hui je fais partie des 8, donc je mérite de faire le hold-up du siècle.
C'est ça, vraiment le hold-up de l'année. Eve Roger, vous êtes bien placé pour l'emporter, mais.
Mais moi je l'adore, Emmanuel Dutheil, moi je vote pour Emmanuel Dutheil. Et je dis votez pour Emmanuel Dutheil, je l'adore. Si, il mérite.
Anissé Mida, alias Tonton Vidéo, qui filme cette séquence.
Oui, oui, bah, il faut bien filmer. C'est vrai. Puis il faut que je fasse honneur à mon rôle de nouvelle technologie.
C'est vrai.
Non, de voter. Non, mais juste parce que. Peut-être parce que. Je sais pas pourquoi vous voulez voter. Parce que je suis quatrième, il faut que je remonte.
Mais non, moi, mais ça sert à rien.
Je qui s'effondre à la dernière minute. Mais, oui. Allez, solide toute l'année, là, la dernière alimentation.
Parce que peut-être que je serai pas l'année prochaine. Donc,
oh mon Dieu, alors donc, il faut voter pour vous, rien pour ça. Alain Sirou.
Parce que je suis l'image du futur.
Merci beaucoup. C'est Anne Le Gall, pourquoi c'est vous qui allez remporter la saison?
J'ai déjà donné mon pot de vin avec ce magnifique livre de bricolage Zéro Déchet. Alors moi, j'ai pas du tout envie de plaider ma cause. Je vais plaider le travail collectif de cette émission. Les travailleurs de l'ombre en régie, Philippe Abardeille, Romain Causer, Claire Dutronc, Sébastien Bordelat.
Ils votent
en plus, ils ont le droit de vote.
Oh, c'est bien, mais juste remercier, je vais pas attendre de faire à la fin de l'émission. Ça, c'est très bien. Nicolas Caro, pourquoi c'est vous qui devez être le champion de l'année?
Même argument que Mathieu. Il y a 3 ans, j'ai pas dormi pour venir vous soutenir à 5h du mat. L'année dernière, j'ai pas déjeuné un seul jour de l'année.
C'était l'inverse,
Nico.
C'était l'inverse.
Et puis cette année, il faut être conscient de ses qualités. Je crois que mes chroniques étaient les meilleures.
En toute simplicité, Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah oui, pardon, je les avais oubliés. Excusez-moi.
Le problème, c'est qu'eux aussi nous ont oubliés.
Pardon. Première heure, c'est Fred Goetti.
Bravo.
2 points pour Fred Goetti.
Pour la deuxième heure, Eva.
Et pour la deuxième heure, c'est Eve Roger.
Bravo. Ouais.
Il m'adore.
Alors, pour ma part, je donne mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier.
Ah, c'est le meilleur
dernière
point.
Chronique.
C'est le point le plus important.
Oui, mais c'est qu'un seul point.
Je peux me retirer, c'est pas grave.
C'est qu'un seul point. C'est vrai que Constance Benquet a donné déjà 10 points.
Oui, voilà. Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. Il y a des choses qui nous échappent.
Alors, qui vote encore aujourd'hui? La régie.
La régie par la régie. Voix de Romain Causer.
Alors, avec Philippe Amardel, on a décidé de voter pour Eve Roger.
Ouais.
Plus 20
points.
Bravo.
Eva, j'ai décidé que vous auriez 20 points. Je viens de le décider à l'unanimité de moi-même et ça va peut-être changer la donne.
Ça change la donne. C'est horrible.
C'est qu'on a tous un point.
C'est-à-dire que c'est la seule configuration dans laquelle Dutheil peut gagner. Je dis ça direct.
Emmanuel Dutheil.
Ouais. Alors là, tout est chamboulé. Il reste une personne qui doit voter.
Oh non.
Notre guest.
N'enlevez pas mon rêve.
Ultime rebondissement.
30 points, j'imagine.
N'enlevez pas son rêve à Emmanuel Dutheil.
Non.
Ou peut-être que si.
40 points.
Ah, bonjour, c'est Amanda. Je donne 2 points à Emmanuel Dutheil. Ouais, il sait très bien pourquoi.
On ne le sait pas. Eva, faites le calcul.
Mais c'est Dudu qui est le journaliste de la ville.
Voilà. Dudu, des profondeurs du classement jusqu'au cime de la rédaction de Europe 1.
Par contre, il fallait nous expliquer que l'objectif, c'est d'être dernier pour faire ajouter et que ça fasse un truc drôle. Quoi, parce que
il fallait s'y attendre, Mathieu.
Franchement.
Il fallait s'y attendre. Ne soyez pas boudeurs et mauvais joueurs. Merci à tous. C'était la 204e et dernière journée de l'équipe solaire. Si les règles sanitaires ne l'interdisaient pas, je vous serrerai tous contre mon cœur. Merci à tous d'avoir joué le jeu de la compétition cette saison. Les amis, merci Eva de m'avoir supporté au quotidien pendant 7 ans.
Merci à toi, parce que maintenant on peut se tutoyer.
On peut se tutoyer maintenant. Enfin débarrassé de moi, tu vas enfin pouvoir trouver un mec.
Ah ouais.
Et oui, l'été sera chaud dans le Var. Merci également à tous ceux qui ont bossé d'arrache-pied en coulisses, nos réalisateurs Philippe Amardeille et Romain Causer, notre producteur artistique, car oui, on avait un producteur artistique, Sébastien Bordenal, Claire Dutronc, notre formidable programmatrice, Oriane Lévy pour les sons, les parents d'Eva pour l'avoir conçu avec autant de détails. L'équipe est sauvage, c'est fini. Pour ma part, j'aurai le bonheur de vous retrouver la saison prochaine à la même heure pour une nouvelle aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer un merveilleux été avec Philippe Googler qui va vous faire voyager durant toutes ses vacances avec son émission Et si on partait ? Un conseil, répondez oui. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, merci pour cette belle saison de l'équipe sauvage. Les meilleurs moments dès demain à 16h et bien sûr à la rentrée aux côtés de Stéphane Bern sur Europe 1. Très bel été Mathieu.
18h-20h, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.